Nous sommes le samedi 16 décembre pour Libre Radio depuis l'espace 99, donc l'espace quartier 99. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité, mais également un sujet complexe, en compagnie de trois intervenantes et intervenants. Donc nous allons parler de cela avec José Ernesto Wilkaman, bienvenue à toi. Avec Elena Ruska, bonjour à toi.
Bonjour.
Et ensuite avec Alberto. Bienvenue à toi Alberto. Vous allez chacun évidemment vous présenter un petit peu plus précisément. Mais voilà, l'idée de cette discussion, c'est de parler d'abord du peuple Mapuche, de sa posture, de son existence, de la manière dont il existe au Chili, puisque c'est du Chili dont on va un peu plus parler, même si on sait que le peuple Mapuche est à cheval entre le Chili et l'Argentine, il est quand même très majoritairement sur le Chili.
C'est le contraire, c'est le Chili et l'Argentine qui sont sur le territoire.
C'est une excellente remarque. Je te remercie de la précision, José Ernesto. Alors, justement, eh bien, commençons par toi, José. Si tu voulais bien, justement, nous situer plus précisément la population Mapuche, son origine, son historicité.
Felei. Mare mare pupeni capulamien, compuenei compuche. Je viens de saluer en Mapudungun, c'est donc la langue autochtone, la langue des autochtones des Mapuches du Chili, qui est également pratiquée en Argentine. C'est une population qu'on estime à peu près sur les 8000 ans d'existence par de côté et d'autre. Donc c'est un territoire très étendu qui, avant la colonisation, englobait la partie donc presque qui arrivait de côte à côte, donc on parle de la côte atlantique à celle du Pacifique. C'est en millions d'hectares, j'ai oublié en soi, mais c'est un territoire étendu tel comme une fois, enfin même deux à trois fois la France. Donc là, on estime à peu près que ça arrivait jusqu'à Buenos Aires, ça arrivait jusqu'à Santiago, l'influence donc du peuple Mapuche qui aujourd'hui est réduit depuis, disons, la création des nouveaux États à ce qu'on appelle des réductions. Donc là, je fais un passage très vite, puisqu'il y a eu toute la période de résistance à la conquête qui a eu comme exception dans toute la conquête des Amériques la reconnaissance par la couronne d'Espagne à travers de nombreux traités du territoire Mapuche et donc de ce qu'on appelait au début l'État chilien, le pays Mapuche. Donc. D'ailleurs, c'est en hommage à ces valeureux guerriers résistants contre la conquête que O'Higgins fait, maintenant que sa lettre vouée donc, à l'honneur des Mapuche pour cette nouvelle nation qui était celle du Chili, indique donc ce qu'était la bravoure, le courage et la dignité de ce peuple. Ensuite, il y a eu toute une période dans laquelle de cette image héroïque qu'était le Mapuche, puisqu'il était également sur le premier étendard, donc sur le premier drapeau chilien, il y avait deux Mapuches qui étaient représentés. Donc c'est pour dire l'importance qu'avait la figure, au moins de ce qu'on connaissait alors des Mapuches. Maintenant, c'est une réduction qui s'est faite en deux siècles pratiquement, puisqu'à partir de la pacification, comme on l'appelle, le Rokani, le peuple Mapuche a été victime d'un génocide. Donc c'est encore une dette pendante, puisque encore aujourd'hui, il est, disons, tabou de parler de cette période-là, sans avoir ce qu'on appelle cette dette historique. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Donc maintenant, sur les réductions qu'il y a, donc les territoires autochtones, ce qui était donc l'étendue du Hualma pour maintenant, se situe sur la région de ce qu'on appelle la Araucanía. Et j'en mets juste un petit coup. Donc sur ce territoire de l'Araucanía, il y a aujourd'hui même des communautés qui sont en état de siège, qui sont militarisés, ceci, comme je disais, à travers tout un processus de dépouillement des terres, enfin de l'expropriation et de vol pratiquement, puisque au lendemain de ce qu'a été la pacification, tout ce qui était la richesse du peuple autochtone a été pris Ce sont donc, on parle de milliers de bétail. Alors c'était quelque chose à voir, donc la récolte de bétail, outre aux terres et disons à ce qu'était l'identité, enfin ce qu'était jusqu'alors ce qui était reconnu comme individu, tout simplement. Maintenant, si l'intégration, enfin forcé du Mapuche est arrivé dans la société chilienne, c'est par le bas. Donc c'était un nivellement qui était placé comme quelqu'un qui est avec tout ce qu'on peut appeler de raciste comme, comme épithète, donc qu'il soit alcoolique, qu'il soit mal vêtu, tout ce qui est, je dirais, assez superficiel et qui ne va pas dans le fond de la question. Ils étaient originaires, eux, légitimes, encore aujourd'hui, donc habitants de ce territoire.
Est-ce qu'on peut dire que... Alors, j'aurais une question concernant le mot Mapuche et le mot Araucanie. Sont-ils semblables? Désignent-ils la même entité sociale, géographique, ou sont-ils dissemblables, ces mots?
Alors, dans la période de la conquête, il y a eu cette œuvre qu'on appelle l'Araucana, fait par Alonso Garcia. C'était un émissaire, disons, du roi, qui a fait un best-seller, en fait. Cette Araucana était vraiment une œuvre dans laquelle on illustrait à l'égal des mythologies grecques. Il y avait toute cette idée d'un territoire lointain et où habitaient des habitants farouches. C'est la description même, donc, faite dans l'Araucana. Donc, même si c'était fait pour les faveurs du roi, à travers la lecture de cet Araucana, on voit un hommage fait à cette population, à ces Mapuches. Et alors, justement, lorsque ces conquérants sont arrivés sur l'endroit, pour avoir idée de comment appeler ces personnes-là, se sont référés à une traduction ou plus ou moins quelque chose qui était similaire à Rauco. Et puis ils ont mis Arauco, mais ça indique plutôt c'est une indication géographique plus que le concept même de Mapuche, qui lui-même est l'autodésignation que font les diverses nations alors présentes, qui étaient Piconche, Huilliche, Lafkenche et Pehuenche, pour les quatre. Vraiment, ça, ce sont les quatre populations qui sont dans les quatre extrêmes, qui sont du nord au sud et de la montagne et de la mer.
D'accord.
Donc, la vraie dénomination, on peut dire, celle des propres habitants, hein, c'est Mapuche qui voudrait indiquer déjà un concept. Donc, ça comprend plusieurs autres entités autochtones. Et Mapu, tout simplement, très sommairement, quand c'est traduit, on dit homme de la terre. Non, mais c'est un peu plus que ça. Donc, Mapu veut dire vraiment que ce sont des personnes qui appartiennent à la terre. Donc, c'est comme une désignation que les deux ont ce qu'on appelle un kepal, mais un tuun. Donc, c'est un binôme, c'est vraiment pour signifier l'appartenance à cette terre, et également que la terre est élément de ces hommes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dissociation qui peut être faite.
Ok, je comprends. Dis-moi, tu as parlé de 8000 ans d'existence du peuple Mapuche. Peut-on dire que là-dedans, tu vas certainement préciser, est-ce là un peuple homogène, ou y a-t-il eu des hauts et des bas, des moments un petit peu d'exil, ou est-ce qu'on peut dire que géographiquement, socialement, ces 8000 années, elles sont relativement homogènes? Et la question qui va avec ça, quand on parle de culture ou de nation Mapuche, ça désigne quoi? Ça désigne également une langue, une culture, un emplacement géographique, ça désigne tout ensemble?
Alors, les études faites sur ce qu'on a appelé les premières traces de civilisation sont à peu près à cette endroit de l'histoire, à 8000 ans de l'ère chrétienne. Mais il faut indiquer également que chez les Mapuches, il n'y a pas de
vestiges ou de architecturaux ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment dans l'idée que si il y a 10 000 ans à peu près, on situe les populations du nord qui sont arrivées par l'étroit de Bering, plus ou moins à l'arrivée au sud, ce sont l'arrivée des premières populations, donc, qui après, effectivement, développeront chacune, hein, puisque comme je le disais, celles près de la mer auront une culture qui est évidemment influencée par son élément, qui est ceux qui seront dans les plaines également, ceux qui seront sur la montagne, sur la cordillère également. Donc c'est plutôt par force des faits historiques que lors des premières invasions incaïques, il y a eu une idée de regroupement, il y a eu une idée de faire un front commun pour résister à cette nouvelle, enfin, à cet être qui considérait autrement le monde, quoi. Parce que là, c'était plus, disons, la Terre, nous qui faisons partie de la Terre, mais l'inverse. Ça a l'air assez simple, mais c'est comme ça que la confrontation peut se résumer. Et
alors, une dernière question pour justement encore se matérialiser, hein, le peuple Mapuche dans notre esprit. Pourrais-tu nous dire quelques jalons, quelques mots sur l'organisation sociale Mapuche, et de quelle manière est-ce que cette société, au travers de ces millénaires, a existé et existe toujours, et quelle est son actualité aujourd'hui en termes d'organisation sociale? Est-ce que voilà, des institutions existent quand même, une forme d'auto-organisation parallèle de ce qui se passe dans les États-nations modernes subsiste ou pas?
Alors, pour se comprendre bien, que l'idée de nation Mapuche naît du moment qu'il y a eu les diverses conquêtes. Donc pas vraiment celle de l'Inca, mais celle déjà des Espagnols. On établissait un concept que nous, c'est pas une société en soi patriarcale. Il y a une importance de la figure de la femme qui est dans toutes les sociétés, enfin dans tous les peuples autochtones, binôme. Donc c'est un équilibre qu'il faut avoir entre ces deux entités, hommes et femmes. Et donc la structure traditionnelle, si on peut dire, c'est celle du Lonko. Ensuite il y a Werken, ensuite il y a Machi, pour dire, ce sont tous des noms qui désignent Lonko. Donc, comme le nom traduit littéralement l'indique, c'est la personne qui est à la tête. Mais non pas à la tête parce qu'il a un statut hiérarchique, mais parce que simplement il est entouré. Dans ce qu'on voit souvent, ce qui est la grecque Mapuche, une espèce de petit carré à 9 côtés, comme ça mm-hmm. représente la configuration de l'OF. Donc ce sont les familles avec un noyau qui est celui du Lonko, et ensuite l'entourage, c'est celui qui forme la première unité, disons, pour une communauté. D'accord. Et l'enchaînement, disons, de toutes cette communauté représente justement soit une entité qui est plus large, comme on peut dire jusqu'à une nation, qui est comme celle des Larkenche ou celle des Picunche, etc.
Donc on parle vraiment de la famille,
du noyau. Ça, c'est la structure traditionnelle.
Oui.
À présent, c'est clair qu'avec la sécularisation et toute l'influence qu'a eu la société occidentale, il y a très peu, qui subsistent, qui encore aujourd'hui survivent. D'ailleurs, c'est l'intérêt même qu'a ici apporté Elena, puisqu'elle est allée directement dans une de ces communautés encore traditionnelles qui résistent disons, un modèle qui n'est étranger.
Alors voilà, justement, Elena Luska, tu es parmi nous également parce que tu es allée à la rencontre de ce peuple, pourrait-on dire. J'aurais envie de vous poser, pour commencer, une question qui fait un peu la transition, donc à vous deux. Alberto, bien entendu, tu interviens toi aussi quand tu veux. Mais je voulais encore avoir votre éclairage concernant les moments. Quels sont les moments clés dans une existence de Mapuche? Est-ce que on peut dire qu'on a un peu les mêmes moments clés que dans le monde entier, avec la naissance? Alors pour certaines populations, il y a le baptême. Pour d'autres, il y a le moment où on devient pubère, hein, où on devient adulte, on se marie et puis on meurt. Est-ce que c'est plus ou moins les mêmes moments clés des existences Mapuche, ou y en a-t-il d'autres, ou des différents?
Non, mais je pense que c'est à peu près la même...
La même séquence, comme ça.
La même séquence, puisqu'il y a des rites, donc, passage. Donc, la naissance, effectivement, il y a une cérémonie où laquelle on célèbre l'arrivée du nouveau-né. Il y a ensuite également une autre cérémonie lorsqu'il y a, pour la femme, hein, ici, attention, pour la femme, lorsqu'elle a ses menstruations, pratiquement, c'est lorsqu'elle devient, elle devient fertile, on peut dire comme ça. Mais donc, ça n'est pas du tout pour faire un mariage, disons, c'est juste pour indiquer, voilà, cette personne est déjà considérée comme adulte, est déjà quelqu'un qui est, qui entre dans le monde adulte. Ensuite, pour les hommes, je crois qu'il y a quelque chose un peu plus tard. ça correspond, hein, c'est l'usage biologique qui est celui de... Plutôt lorsqu'il devient pour être pour, prêt pour le mariage.
D'accord.
Être prêt pour la...
Qui quitte couple. Le... Voilà.
Voilà. Et également, le mariage en soi est une cérémonie dans laquelle la compagne doit faire preuve de, dans le traditionnel, hein, je parle,
doit faire preuve de
manualité jusqu'à, par exemple, faire, dans la région où j'habite, préparer un cheval entier pour la comitive. Donc, elle doit aller nettoyer les boyaux, elle doit faire... c'est clair qu'elle a aidé, elle n'est pas toute seule, mais elle est impliquée dans ce travail-là.
D'accord.
Au-delà...
Il est mort, est-ce que c'est un moment de tristesse, un moment de retour vers quelque chose, de passage vers quelque chose?
Non, là, il y a moins... Enfin, on entend bien qu'il y a des morts qui sont, comment dire, tragiques, puisque lorsqu'on est par le dos mitraillé, c'est pas une mort naturelle, c'est pas une mort
violente, bien sûr.
C'est assez injuste.
Oui.
Lorsque ce sont des enfants encore pires, donc des mineurs qui sont victimes dans ces dernières années, d'une et d'autre part de la cordillère, donc d'Argentine et Chili. Mais la mort en soi, c'est un retour, c'est clair, c'est un retour vers la clé, puisqu'il y a dans toute la conception cosmologique de la Mapuche, il y a un cycle. D'ailleurs, on ne parle pas justement dans ces jours-ci de nouvel an, puisque ça ne correspond pas au solstice d'été qu'il y a en juin au Chili. Mais même alors, on parle du retour du cycle de la lumière. Donc c'est le soleil qui revient. C'est à peu près ça ce que je peux avancer sur
les connaissances. Non, mais très bien, c'était pour se faire justement pour tracer les contours de... Voilà, alors maintenant, passons à cette rencontre avec une population que, a priori, tu n'aurais peut-être jamais dû rencontrer. Alors, comment s'est fait cette rencontre? Quelles sont les circonstances de cet intérêt qui a surgi chez toi?
Alors, l'intérêt, moi, j'ai découvert que j'ai eu pour la population Mapuche. Il est né il y a quelques années, pas directement à travers les Mapuches, mais à travers l'histoire du Chili et plus particulièrement l'histoire de Allende.
Alors, peut-être voudrais-tu nous rappeler en quelques mots Allende, l'époque, qui était-il, le compañero presidente?
Allende, il était président du Chili, président de gauche, élu démocratiquement, à une époque où les gouvernements socialistes ils arrivaient par révolution. Allende, c'était le seul qui était élu démocratiquement par le peuple et que durant ses 3 ans de gouvernement, il a maintenu toutes les votations, les préférences que la population il lui a données. C'était un gouvernement extraordinaire pour la population du Chili parce qu'il a pu redonner à cette population un accès à la culture. Moi, je suis artiste, donc je me suis très particulièrement intéressée à l'accès culturel, artistique que Allende il a su donner à la population à travers la réalisation d'un musée qu'il appelait le Musée de la Solidarité Salvador Allende, qui était un musée qui a été créé en 1972 à travers les donations des différents artistes tels que Picasso ou Miro pour donner un musée gratuit, donc ouvert à tous. Des universités populaires, des universités du soir auxquelles tout le monde y pouvait avoir accès. Des maisons d'édition telles que la Quimantú, une maison d'édition populaire où on pouvait trouver et acheter des livres pas chers. Il a vraiment donné la possibilité à tout le monde, à toute la population, surtout plus particulièrement la population ouvrière, la plus pauvre, d'avoir autant de possibilités et d'accès à la vie, à la société, que le reste de la population. Et quand je suis arrivée en 2012 pour faire mes recherches sur l'histoire d'Allende, j'ai un peu coigné ma tête sur l'histoire des Mapuches. Car les journalistes que moi j'ai interviewés là-bas, ils faisaient ressortir de plus en plus souvent le nom Mapuche et le lien en fait qu'il y a directement avec cette période. Allende, il a gouverné 3 ans, de 1970 à 1973. Il a terminé son gouvernement par le coup d'État de Pinochet et des États-Unis. Et cette dictature, elle a perduré jusqu'en 1988 avec le référendum qui, si d'un côté, il a redonné un accès, disons, une démocratie à l'État du Chili, bah, il n'a rien changé tant au niveau de la constitution qui restait celle de la dictature, tant au niveau des personnes qui se trouvaient concrètement au gouvernement. Bah, Pinochet, d'ailleurs, il est resté sénateur à vie. Et plus particulièrement, revenons à notre situation, les Mapuches, qui, s'ils avaient été réprimés et arrêtés, harcelés et vraiment torturés durant la dictature, bah, rien n'a changé du moment que la démocratie elle est revenue en 1988. Et donc, si peut-être aujourd'hui... Oui, exactement, ça a été encore plus réprimé. Ça a augmenté, et si aujourd'hui il y a peut-être certaines populations qui encore ils arrivent à vivre en paix, il y en aura bien d'autres, comme celle que j'ai pu rencontrer, la communauté de Temucuicui, qui sont réprimées militairement, donc pas les militaires de, voilà, des forces du gouvernement, donc quotidiennement. Moi, j'ai retrouvé cette communauté. Je l'ai choisie particulièrement parce que c'était une des plus réprimées. Et j'avais l'intérêt de comprendre en les rencontrant, en connaissant le lieu, vraiment la situation qu'ils étaient en train de vivre. Et juste pour te dire, le jour qu'on avait prévu de se rencontrer, bah, c'était... Cette même année, en février 2017, on s'est retrouvé dans un état assez particulier car la communauté elle avait été attaquée par les militaires, par les hélicoptères des militaires. Le jour avant, ils avaient arrêté 3 personnes, entre autres une mère d'un bébé, un enfant de 8 mois, et amené à la prison de Coyipulli, qui se trouve à quelques kilomètres du lieu où ils vivent, la communauté de Temucuicui.
Justement, en quelques mots, cette communauté, explique-nous géographiquement où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que c'est le type d'organisation, c'est plutôt une organisation quand même rurale, urbaine? Est-ce que c'est dans les montagnes?
Elle se retrouve vraiment à 100 kilomètres de Temuco, qui s'est situé plus ou moins à 600 kilomètres de Santiago. Donc c'est 6-7 heures de bus de Santiago au sud.
Au sud de Santiago, d'accord.
Donc vers la région qu'on appelle de l'Araucanía, c'est vraiment cette région où il y a le plus de ces communautés mapuches qui résistent, en fait.
Chef-lieu, Temuco.
Ah, ok, ouais. Et alors c'est plus un paysage...
C'est un paysage rural.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment à l'intérieur de la campagne. Le village auquel on a accédé pour pouvoir ensuite rencontrer la communauté, il s'appelle Erci, et c'est vraiment un petit village. Il y a vraiment 100 d'habitants. C'est vraiment très rural. Et aussi, la vie de la communauté, elle est dédiée, elle tourne tout autour de la vie de la campagne. Ça peut rappeler nos paysans de D'accord. nos villages, en fait. Ils sont axés sur l'élevage, l'élevage en particulier des moutons et des chevaux. C'était en tout cas les enfants à ce moment-là où on est arrivé qui devaient s'occuper des moutons. Et nous-mêmes, en visite, on a passé notre journée à s'occuper des moutons avec les enfants qui continuent à s'échapper d'un tous les côtés. Et c'est vraiment ça qui nous a fait réfléchir du moment qu'on était en visite, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de paradoxal quand on arrivait à Temukuikui. Parce que quand on va là-bas, c'est un paysage idylliaque, c'est vraiment une campagne bucolique avec une verdure, c'est très vert par rapport à des autres zones du Chili qui sont très arides. Il y a l'eau, il y a ces animaux, il y a les cultivations, parce que les Mapuches, là, Temukuikui, ils vivent aussi beaucoup de ceux qui cultivent. Mm-hmm. Une vie très simple, mais en même temps...
Une violence.
Une violence de l'autre côté des militaires, une pression.
Attention.
Une pression comment, quotidienne.
Comment est-ce qu'on explique ce harcèlement, cette violence qui est faite? Je veux dire, à des personnes qui... Enfin, de mon point de vue, elles ne représentent aucun danger, bien au contraire.
Ce qui se passe, c'est qu'ils occupent des territoires qui sont très intéressants. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont très fertiles. Et ils aimeraient bien... Il y a beaucoup de pression, surtout de la part des ex-propriétaires des latifonds. Parce qu'il y a encore des questions des latifonds qu'à nous, ça pourrait paraître presque moyenâgeuse, mais qu'au Chili, ils existent toujours. Et ces propriétaires... Ils font de la...
Suisse,
hein, oui. Ils font des pressions quotidiennes à l'aide des militaires. Et c'est quelque chose de vraiment très dur et qui se répercute aussi plus particulièrement, pas seulement sur les adultes, mais déjà directement sur les enfants. Nous, quand nous sommes arrivés dans notre voyage, nous avons été reçus par la fille... un de mes contacts, Huelen, de 14 ans, qui était terrifié. Il nous a raconté vraiment ce qui s'était passé le jour avant et nous expliquait. Elle se cachait en dessous de la table et elle était tous les jours terrifiée par le bruit des hélicoptères, par tous les bruits qui pouvaient l'entourer, même quand ils étaient à l'école. Parce que le fait d'être à l'école, ça n'empêche pas qu'il y a sa famille qui habite dans la communauté qui peut être attaquée à n'importe quel moment.
Non, mais il y a eu des lacrymogènes aussi dans l'école. Hein.
Oui.
Ça, des attaques.
Et encore tout récemment, ces derniers temps, un des autres enfants de 13 ans, de mon contact, il était pris dans un de ces attaques des militaires. Il est fini à l'hôpital. Avec des conditions sérieuses, et là, il a certainement perdu tous ses dents, à 13 ans.
D'accord. Est-ce qu'il y a, on va revenir au cœur de ton travail, oui. Au travail que tu as mené au sein de cette communauté, mais juste avant, j'aurais voulu savoir, y a-t-il quand même, à la capitale, à Santiago, des syndicats, des personnes de la société civile, des journalistes, des chercheurs qui s'intéressent à ça et qui prennent fait et cause pour ces communautés, qui disent, non mais c'est pas possible, les droits humains, les droits des peuples autochtones sont... bafoué, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas se contenter de ça, il faut que l'État, si j'ai bien compris, l'État qui est un petit peu aux mains du privé,
ouais.
Si j'ai bien compris, cesse ce harcèlement.
Ce qui se passe à Santiago, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une grande division. Il y a une grande division aussi au sein des mêmes communautés, avec ceux qui sont les partis politiques, ceux qui sont les organisations chiliennes, même de gauche. Il n'y a pas vraiment une union qui fait que ça peut se créer une force et s'opposer à ce qui est en train de se passer. Ça, cette union, ça s'est créé pour ce qui concerne Chiloé, qui est une île qui se trouve aussi au sud du Chili.
Plus grand, le plus grand archipel d'Amérique du Sud.
D'accord, ok.
Là, les Huilliche, qui sont les Mapuche de... propres de l'île de Chiloé, ils se sont alliés aux Chilotes, c'est les habitants de l'île, pour lutter ensemble contre un bien commun, parce que finalement, ces répressions, ils intéressent les Mapuches, mais ils intéressent aussi une bonne partie de la population chilienne même, qui n'a aucun intérêt de voir ces répressions, et aussi, ils les subissent d'une part, il subit aussi des autres situations qui ne sont pas vraiment positives. Et donc, il pourrait très bien s'allier et créer une force commune.
Ouais, mais ce n'est pas encore, disons, le cas.
Non, d'accord. Pas encore.
Alors, revenons au travail que tu as. José, tu voulais intervenir?
Je voulais juste ajouter de petites choses que sur la répression qui est faite au Chili en l'encontre des peuples autochtones, donc dont le plus important étant le Mapuche, et parce que ça rentre en conflit frontal à ce qu'est le modèle d'économie qui est l'extractivisme. Donc on n'a aucune notion de ce qu'est donc le renouvelable ou ce qu'est le maintien d'un système écologique ou qui permette de reproduire pour le moins d'ici quelques décennies la vie tout simplement. On contamine, on laisse le trou ou on détruit la faune qui est donc autochtone à favoriser d'autres espèces qui vont assécher la terre ou qui vont détruire toute vie, disons, qui était dans l'équilibre, qui était dans un écosystème.
Dans ce sens-là, d'ailleurs, si on parcourt le Chili de Santiago vers le sud, vers Temuco, la majorité des terres, ils sont implantées, ils sont cultivées par des eucalyptus. C'est un arbre qui demande beaucoup d'eau,
qui détruit, naturellement rien à faire.
Oui, et qui détruit les...
Voilà. Alors, comme peut-être voudriez-vous préciser ce que l'on entend par extractivisme, parce que c'est vrai que d'autres pays en Amérique latine, on sait que l'Équateur, hein, par exemple, aussi...
Il n'y a pas un modèle de production. Donc la seule richesse que dont fait... bénéfice, disons, c'est l'eau, quoi, j'ai oublié, mais le Chili est sur le modèle de faire extraire donc la matière première, que ce soit les minéraux, que ce soit le bois, que ce soit les produits de la mer, et de laisser un tiers faire cet usage. C'est pour ça que beaucoup de multinationales sont présentes dans les territoires. Beaucoup de multinationales sont d'ailleurs présentes également dans des projets hydroélectriques dont une trentaine sont tous situés sur la région de l'Araucanie, ce qui veut dire donc noyer toute une population, tout un vaste territoire. Cela dit, je voulais juste revenir sur le fait que il y a des organismes qui sont de l'État qui devraient faire médiation entre autres la CONADI, comme on appelle ceci, c'est un institut qui malheureusement est elle-même peu ou pas assez, disons, il y a un peu de crédibilité.
D'accord.
C'est encore une autre organe, une autre façon de faire une adomestication de l'Indien.
C'est la poudre aux yeux, on montre des choses de façade.
Pas seulement, mais une gestion sur les terres et sur ce qui est, disons, parce qu'il y a encore aujourd'hui, avec des titres de ce qu'on appelle donc l'écho, des terres qui ne devraient pas être usurpées, qui sont inaliénables des personnes qui sont habitantes de cette autochtone en plus. Donc, ceci également, je ferai juste un point que dernièrement, puisque nous sommes à un jour des élections, donc demain il y aura, comme je disais, la première élection historique pour les citoyens chiliens à l'étranger, qu'ils soient d'origine mapuche ou pas, mais nous sommes considérés chiliens. Il y a aujourd'hui, avec tout ce qui a été illustré comme panorama des conditions extrême, hein. Je pense que on n'est pas loin de ce qu'on appelle la petite Gaza. S'il y a des drones, s'il y a des hélicoptères, s'il y a une militarisation d'une zone qui réprime et qui assiège une communauté qui n'est pas militarisée, qui n'a pas, disons, une force opposante à cela. Aujourd'hui encore, on stigmatise ce qu'est le Mapuche comme l'image du traître, puisqu'il ne fait pas volonté de vote. Donc, surtout dans ce qu'on appelle une aile de gauche, on va accuser que pourquoi le Mapuche, vote à droite ou même ne vote pas. Alors qu'il a été donc fait un dernier census, comment on appelle ça ?
Recensement,
où on estime que 70, voire 80% de la population Mapuche vit dans les villes. Donc, c'est plus dans l'Araucanie. Donc, de ceux qui restent dans l'Araucanie, ceux qui votent, qu'ils soient Mapuche, c'est un 5, voire moins de 5%. Donc, attribué à ce que le vote qui est résultant de l'Araucanie soit celui des Mapuche, est une autre aberration, est oui. une autre forme de racisme.
Oui, absolument. Très bien. Alors, on va revenir à... Et puis après, on donnera la parole à Gilberto. Hein. Un petit peu de patience. J'ai des questions pour toi.
On a surtout axé ça sur le Mapuche, en fait. Mais j'avais aussi contemplé peut-être la possibilité de parler de ce qu'allait être la journée de demain.
Tout à fait. Alors, encore une ou deux petites questions pour Elena, et puis ensuite, on y viendra. Je voulais encore juste savoir, effectivement, dans le cadre de ton travail au sein de cette communauté, avec quoi tu es revenu ? Tu es allé là-bas, tu as rencontré ces gens, tu as partagé des choses. J'imagine que des relations se sont mises en place qui seront indéfectibles, qui ne pourront plus jamais se défaire. Alors avec quoi es-tu revenu ici en Suisse et avec quoi est-ce que tu continues ta vie ici en Suisse, ton métier et toutes ces choses-là ?
Alors le but de cette rencontre et puis ce que j'amène ici, c'était vraiment de montrer qu'est-ce qu'est la vie de cette communauté, vraiment la vie commune. Parce que souvent, ce qui se passe au Chili, c'est de vraiment peindre ces personnes comme des terroristes, comme des personnes qui armées, qui vivent contre le gouvernement chilien. Et la volonté, l'idée, c'était vraiment de montrer que pas seulement ce n'est pas vrai, mais que ces personnes, ils ont une vie qui est une vie très simple et rurale, mais qui sont également intégrées parce que leurs enfants, ils vont à l'école. Ils rêvent d'aller à l'université, d'ailleurs de devenir avocat pour pouvoir défendre leur propre population, et que donc ils ont tout à fait leur droit de rester, de vivre, et qu'ils ne font rien contre le reste de la population, finalement, que ce que le gouvernement ils essayent. Ouais. Donc ce que j'apporte ici, au-delà du reportage vidéo, des photos, c'est vraiment la volonté de transmettre que ces communautés, ils ont le droit à la liberté, que ce droit à la liberté, il aurait complètement usurpé par le gouvernement même.
D'accord.
Dernière
petite question, ensuite on va passer à l'éclairage d'Alberto. Je voulais savoir si selon toi, mais c'est une question un petit peu collective, hein, en Amérique latine, on a quand même certaines formes d'espoir, j'ai l'impression, qui surgissent, avec des présidents élus tels que... après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je pensais évidemment à Chavez et puis à Maduro, mais également à l'Uruguay, mais également Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa, qui ne l'est plus maintenant. Je pense à Rafael Correa parce que lui, il a mis dans la Constitution le droit à la nature. Il a mis dans cette nouvelle Constitution des choses qui sont absolument inédites, j'ai l'impression. Et j'aurais voulu savoir si toi, tu penses, et après, c'est une question que j'étends à tout le monde, tu penses que, à l'aune du XXIe siècle, quels sont les espoirs, quels sont le devenir du peuple Mapuche ? Est-ce que, avec ces élections qui approchent, puisqu'on va parler de ça maintenant, y a-t-il un modèle en Amérique latine ? Y a-t-il des figures tutélaires de résistance qui surgissent ?
Moi, comme Morales ou... juste faire une remarque, parce que tu me parles de choses très justes et dont je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais juste rappeler, parce que nous, souvent, on parle d'Amérique du Sud, on a l'impression que ce soit quelque chose d'unitaire total, peut-être parce qu'ils parlent plus ou moins la même langue au Brésil. Mais le Chili n'est pas la Bolivie. Le Chili n'est pas un pays, mais je prends la Bolivie parce que c'est un des pays que, par son président, ils ont vraiment mis en avant aussi tout ce qui est culturel, tout ce qui est propre, indigène, des peuples originaires.
Tout à fait.
Le Chili, c'est une population qu'avec les Chicago Boys, et donc tout le côté de l'économie, du néolibéralisme, etc., il y a vraiment eu une révolte, on repousse, on rechasse, on oublie qu'on a eu des origines, des origines Mapuche, des origines Aymara, des origines des peuples originaires qui vivaient là-bas. On arrive aujourd'hui à Santiago, et un peu moins qu'à Buenos Aires, parce que Buenos Aires, on a vraiment l'impression d'être en Europe, mais quand même, il y a cette volonté de ressembler à l'Occident, cette volonté d'oublier qu'on a eu des origines, oublier qu'il y avait des autres personnes avant les Espagnols. Mm-hmm. Et c'est vraiment Le souci, oui, bien sûr.
Mais on voit cette image de Pinochet qui arrive, accueilli par Margaret Thatcher, qui est cette image très emblématique d'une certaine politique. Et... Je comprends, je vois ce que tu veux dire.
Et donc, c'est difficile, en tout cas, personnellement, puis les autres, peut-être, ils auront des autres visions, mais par rapport au Chili même, l'Amérique du Sud, elle est très grande. Il y a eu peut-être au moment d'Allende, au moment où il y a eu les mouvements, les révolutions, etc. Il y a eu cette volonté de s'unir, de Simón Bolívar, d'une grande nation.
Mais Bolívar qui s'inspirait au mouvement, la loge dont faisait partie la plupart des maçons, général maçon à l'époque, s'appelait Lautaro. Donc, Lautaro, c'est justement quelqu'un qui a fait opposition à la conquête, enfin, qui a gagné même, contre, jusqu'à arriver aux portes de Santiago. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, je dirais, un des phénomènes, le phénomène en tant que historiquement, culturellement et identitairement, la résilience du peuple mapuche, qui a su résister donc les diverses invasions impériales, on parle de l'Empire Inca, on parle aussi de la couronne espagnole, et également de la pacification ou la campagne du désert. Déjà alors, ça avait des noms un peu comme Peace and Endurance Peace, non ça fait, c'était assez contradictoire, mais le fait est qu'aujourd'hui, contre la globalisation, contre ce qu'a été toute l'école des Chicago Boys, du néo-monétarisme alors et du néolibéralisme, le mouvement de résistance mapuche est l'un des plus durables et l'un des plus historiquement aussi antérieurs à tout ce qui allait devenir après les mouvements sociaux au Chili.
D'accord.
Donc, depuis avant les années 70, durant les coups d'État, la dictature, et après, jusqu'à aujourd'hui, donc la volonté du peuple mapuche reste encore celle d'être tout simplement libre. Mm-hmm. C'est ça ce qu'on appelle la libre autodétermination. C'est la lutte pour les droits de l'homme.